Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Ce n'est décidément pas l'année de la Chine. Soumis depuis plus d'un an à la pression américaine sur le commerce, Pékin voit s'ouvrir un autre front dommageable pour son image et sa volonté d'ouverture sur les marchés mondiaux de capitaux. Hong Kong se réveille, Hong Kong se rebelle. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui dans les rues de cette ville, devenu l'un des principaux hubs de la finance internationale. Hong Kong. Le 28 avril, des dizaines de milliers de personnes descendent dans les rues de la ville pour protester contre un projet de loi sur l'extradition.
Obviously, this enormous Hello, turnout of protesters in Hong Kong, the largest since the Umbrella Movement back in 2014, a clear sign people here are very worried about this extradition law.
Depuis, ils manifestent inlassablement. D'abord pacifiquement, mais le 12 juin, les manifestations dégénèrent.
La mobilisation enfle et la tension monte dans les rues de Hong Kong. La police a fait usage de balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène contre les manifestants rassemblés en masse depuis plusieurs heures devant le Conseil législatif notamment, pour tenter de les empêcher d'entrer dans le bâtiment.
Puis, à plusieurs reprises cet été, comme on peut l'entendre sur Euronews.
L'aéroport d'Hong Kong a une nouvelle fois été le théâtre d'affrontements entre policiers et manifestants mardi soir. Les forces de l'ordre ont utilisé du gaz au poivre pour disperser les militants pro-démocratie. En représailles, certains d'entre eux s'en sont pris violemment aux policiers.
Avec le risque que la situation échappe aux autorités de la ville, mais aussi à Pékin. Après 4 mois de crise, pour la première fois, Pékin lâche vraiment du lest et annonce le retrait pur et simple du projet de loi qui avait mis le feu aux poudres. Cela sera-t-il suffisant pour calmer les manifestants ? Ils étaient plus de 2 millions en juin à protester, selon les organisateurs, soit un quart de la population. Pour comprendre ce qui se trame, j'ai appelé Frédéric Schaeffer, c'est le correspondant des Échos à Pékin. Alors Frédéric, comment ont réagi les protestataires à l'annonce de ce retrait du projet de loi ?
Pierrick, le sentiment général, c'est trop peu, trop tard. En fait, la chef de l'exécutif vient effectivement d'annoncer la suppression du projet de loi la semaine dernière, après 3 mois de manifestations qui ont été émaillées de violences qui sont allées crescendo. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que durant ces 3 mois, le fossé, l'incompréhension, voire même la fureur contre le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong n'a fait que se renforcer. Et le divorce est également profond entre la population et la police, qui n'a pas hésité à user de lacrymogène, de tirs en balles au caoutchouc, même de canons à eau, ce qui était une première à Hong Kong pour disperser la foule. Et les images d'intervention parfois extrêmement musclées des forces de l'ordre, par exemple dans le métro, ont vraiment provoqué un très fort mécontentement de la population. Et du coup, les revendications sont montées crescendo durant les derniers mois. Et le retrait de la loi, finalement, n'était plus qu'une des revendications des manifestants, mais pas la seule.
Qu'est-ce qu'ils réclament aujourd'hui ?
En fait, ils ont 5 revendications. Alors, leur première demande a été exaucée, si je puis dire, puisque c'était le retrait définitif du projet de loi d'extradition. Mais ils ont 4 autres demandes sur lesquelles Carrie Lam, pour l'instant, a opposé un ferme veto. C'est une commission d'enquête indépendante sur les brutalités policières. C'est l'abandon des poursuites à l'encontre des manifestants qui ont été arrêtés et qui sont considérés juridiquement comme des émeutiers. Ils demandent aussi la démission de Carrie Lam. Et enfin, davantage de démocratie pour Hong Kong avec la mise en place d'un suffrage universel direct.
Pour qu'on comprenne bien, Frédéric, pourquoi est-ce que ce projet de loi avait suscité autant de rejets de la part de la population ?
Alors, le projet de loi qui avait été annoncé en février dernier par Carrie Lam visait à autoriser les extraditions vers la Chine continentale avec qui Hong Kong n'avait pas de traité d'extradition. Et le gouvernement de Hong Kong défendait l'idée qu'en fait, sans cette loi, avec la situation telle qu'elle était aujourd'hui et telle qu'elle est, de nombreux criminels de Chine ont trouvé refuge à Hong Kong et ont échappé à la justice chinoise. Donc l'idée de Carrie Lam, c'était avec cette loi de changer cette donne. Mais en fait, les Hongkongais sont très vite inquiétés des extraditions arbitraires que Pékin pourrait demander, sachant que Pékin pourrait considérer comme fugitif à peu près n'importe qui du coup serait jugé devant la justice du continent, qui, on le sait, n'a vraiment rien d'indépendant et qui est aux ordres du régime communiste. Alors du coup, les habitants de Hong Kong se sont assez vite inquiétés. Et fait rare, ce projet de loi d'extradition a fédéré contre lui en fait toutes les couches de la population, et y compris les milieux d'affaires qui ont vu tout de suite une menace sur l'attractivité de la place financière de Hong Kong. Mais en fait, cette loi, elle a surtout été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et elle a été révélateur en fait d'inquiétudes croissantes des Hongkongais pour l'avenir de leur liberté publique. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a été perçue comme un nouveau coup de canif de Pékin dans leur liberté et dans leur système judiciaire.
On va rappeler une chose aussi, Frédéric, c'est les liens particuliers qui unissent la Chine et Hong Kong sur la base de un pays, deux systèmes.
Oui, alors en fait, c'est effectivement ce principe qui gouverne Hong Kong depuis sa rétrocession en 1997. C'est un principe qui garantit en théorie jusqu'en 2047 à Hong Kong des libertés qui sont inconnues en Chine continentale. C'est un principe qui est au cœur de la déclaration sino-britannique de 1984 qui avait fixé les termes de la rétrocession de l'ex-colonie britannique. Et en fait, grâce à ce principe d'un pays de système, Hong Kong jouit au moins sur le papier depuis la rétrocession de privilèges uniques, comme je l'ai dit. On parle de la liberté d'expression, un système judiciaire indépendant ou encore une petite dose de suffrage universel dans la désignation de son organe législatif. Mais en fait, plusieurs incidents ont renforcé les craintes des Hongkongais quant à l'attitude de la Chine à tenir son engagement et ce principe du « un pays, deux systèmes ». Il y a eu plusieurs événements marquants au cours des dernières années, notamment la disparition en 2015 de 5 libraires qui ont fait soudainement surface sur le continent quelques mois plus tard. Il y a aussi eu le cas d'un milliardaire chinois qui a été enlevé directement au Four Seasons de Hong Kong et qui est réapparu en Chine continentale au cours d'un procès. Et il y a eu plusieurs cas, même sur le plan politique, après l'échec du mouvement des parapluies de 2014, où Pékin n'avait absolument rien lâché. Il y a eu un petit parti indépendantiste qui s'est constitué et qui a été assez vite interdit, ou encore des cas de députés qui n'ont pas pu siéger au Parlement. Et même avant que la colère gronde sur le projet de loi d'extradition, des leaders du mouvement des parapluies, il y a quelques mois, ont été condamnés à des peines de prison ferme. Donc tout ça fait craindre aux Hongkongais qu'on soit déjà pu dans le principe d'un pays, deux systèmes. Certains à Hong Kong parlent d'un pays, un système et demi, et craignent demain de tomber sous le principe d'un pays, un système.
On va retrouver Frédéric dans quelques minutes depuis Pékin, mais j'ai eu besoin d'en savoir plus sur ce qu'il se passait effectivement à Hong Kong et sur comment les expatriés réagissaient à cette situation. J'ai appelé Karine Hirn, je la connais bien pour l'avoir souvent interrogée sur les marchés financiers asiatiques. Elle est cofondatrice d'une société de gestion East Capital. Elle vit à Hong Kong depuis 6 ans. Elle m'a expliqué d'abord ce qui l'avait attiré dans cette ville.
Alors Hong Kong, c'est un endroit qui est bien sûr très pratique quand on veut travailler sur l'Asie et notamment sur les marchés actions, qui sont les marchés sur lesquels on se spécialise chez East Capital. Et j'étais à Shanghai avant, on travaillait à ce moment-là déjà sur la Chine. Hong Kong a l'avantage d'être une plateforme pour travailler sur les marchés à la fois chinois et aussi le reste de l'Asie.
Alors c'est pas la première fois qu'il y a des tensions et des manifestations dans les rues de la ville, mais j'ai un peu l'impression que cette fois-ci, ça n'a rien à voir avec les agitations précédentes.
Alors, je n'irai peut-être pas jusqu'à dire que cela n'a rien à voir avec les agitations précédentes, mais c'est vrai que la situation est différente. Moi, j'ai connu ce qu'on appelle le mouvement des parapluies en 2014, parce que j'étais arrivée un an avant. Et c'est vrai que ce mouvement était différent. Le centre-ville était complètement bloqué pendant 3 mois. Il n'y avait aucune circulation possible, mais d'un autre côté, les manifestants s'étaient organisés de façon assez différente. Il n'y avait pas eu de violence ni du côté des forces de l'ordre, ni du côté des manifestants. Et c'est vrai que même si en 2014, c'était déjà des revendications d'ordre politique, la différence aujourd'hui, c'est qu'on peut vraiment dire que Hong Kong traverse une crise politique qui est beaucoup plus profonde. Et une autre différence aussi, encore une fois, par rapport à 2014, ici, c'est, on a vraiment l'impression en plus que des émeutes ou des conflits, c'est une guerre de l'information. Il est difficile de savoir exactement, pas ce qui se passe, mais comment les choses sont interprétées. Vous avez au niveau des médias des versions très différentes, que ce soit entre les médias occidentaux, les médias de Chine continentale ou les médias de Hong Kong. Et puis la dernière différence, il y en a sûrement d'autres, mais la dernière différence dont je voudrais parler, c'est vrai qu'il y a aussi un contexte géopolitique qui est complètement différent. Et Hong Kong, quelque part, nous semble, enfin à moi et à mes collègues et à les gens avec qui j'en parle, un petit peu un jeton sur ce champ de bataille entre les États-Unis et la Chine. Sur donc fond de tensions commerciales. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas, bien sûr, en 2014.
Les manifestations sont en train de prendre une tournure plus violente. Est-ce que c'est un motif d'inquiétude pour vous qui vivez sur place ?
C'est vrai que je peux comprendre que pour beaucoup de gens qui voient ce qui se passe, qui essaient de comprendre ce qui se passe à Hong Kong en regardant la télé ou en lisant les journaux, on a l'impression que Hong Kong est devenu un véritable aussi un champ de bataille ou un champ de guerre, parce qu'il y a eu des images de violence, bien sûr, qui se sont multipliées, et notamment ces derniers jours, et puis beaucoup de dégradations au niveau maintenant des par exemple du métro, des choses comme ça. Mais la réalité sur place, c'est que Hong Kong continue à opérer plus ou moins normalement. Il y a cependant, c'est vrai, 2 changements marqués. Le premier, c'est que c'est clair qu'il faut être vigilant parce que ces émeutes s'organisent d'une façon assez rapide et assez fluide. Et bien sûr, personne n'a envie de se retrouver entouré de gens armés, que ce soit des forces de l'ordre ou des manifestants ou sous les gaz lacrymogènes. Mais la deuxième différence, c'est aussi, et ça c'est vrai que c'est pas du tout le Hong Kong qu'on connaît, c'est il y a un degré d'incertitude dans la vie de tous les jours qu'on n'avait pas avant. Donc ce qui concerne par exemple les transports, il y a eu des mouvements de grève, vous avez aussi bien sûr par exemple des réunions, des conférences qui sont annulées au dernier moment en fonction du risque justement d'émeutes. Et ça c'est vraiment quelque chose de dont on n'a pas l'habitude parce qu'effectivement Hong Kong normalement est un endroit qui est très bien organisé, très prévisible, on n'a pas besoin de jamais se poser des questions par rapport à la logistique, etc. Donc c'est vrai que c'est une nouvelle réalité.
Est-ce qu'on vit comme on vivait avant ? Est-ce qu'on va au restaurant ? Est-ce qu'on va au concert ? Est-ce qu'il y a une vie, notamment le soir à Hong Kong, qui est assez forte ? C'est une grande ville. Est-ce que là aussi, ça tend à changer, à modifier les habitudes ?
Alors écoutez, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un impact. Je le sais aussi en parlant avec des restaurateurs, des amis qui travaillent dans les restaurations. C'est clair que c'est un impact majeur, c'est les restaurants, les magasins. Il y a beaucoup moins de gens qui circulent, surtout quand vous avez encore une fois des situations. Alors c'est vrai que les mouvements souvent se concentrent pendant les week-ends. Alors je pense que on se rend compte que finalement, sûrement les week-ends, les gens sortent moins. Mais en semaine aussi, c'est plus tranquille. La grosse différence, cela dit, c'est pas le fait que les gens comme moi ou mes collègues vont moins au restaurant ou sortent, c'est le fait qu'il y a beaucoup moins de touristes. Et Hong Kong est bien sûr, l'économie de Hong Kong est déjà très impactée par ce phénomène, parce que c'est un endroit qui était pendant très longtemps une destination privilégiée pour notamment les touristes chinois et qui ont maintenant, qui fuient la ville. Donc moi j'étais à Shanghai le week-end dernier, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, où je vais souvent, et quand je rencontrais des Chinois qui me disaient d'où je venais, et je leur disais que j'habitais à Hong Kong, ils me regardaient effrayés en me demandant si j'étais pas inquiète, parce que aussi, donc eux encore plus ont cette image de violence et ont peur de venir à Hong Kong. Donc les lieux touristiques sont complètement désertés, les hôtels sûrement en difficulté au niveau des recettes. On entend parler de niveau d'occupation dans les hôtels qui sont chutés à l'ordre de 15-20%. Et c'est vrai que, encore une fois, c'est un impact parce que ces touristes, non seulement ils venaient fait pour tout le monde dans les hôtels, mais bien sûr, c'est une grosse partie du marché de la consommation, et notamment des magasins de luxe, etc., qui maintenant sont désertés.
Moins de touristes, moins de sorties et d'activités. Hong Kong a déjà revu en baisse sa prévision de croissance pour cette année. Mais Hong Kong est aussi devenue l'une des principales places financières du monde. C'est un pôle d'attraction majeure, notamment en termes de capitaux, mais aussi d'emplois. 250 000 personnes sont employées dans le domaine bancaire et financier de Hong Kong. Ça fait un habitant sur 30. Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui, Karine, que la situation fasse fuir les entreprises du secteur ?
Non, écoutez, je pense pas directement. Vous avez raison de souligner qu'effectivement, Hong Kong est déjà dans une situation économique assez vulnérable. Cette année, avant que tous ces troubles commencent, on avait déjà des chiffres de croissance sur les 6 premiers mois à Hong Kong de l'ordre de 0,6%. Et ça, en fait, c'est à expliquer dans ce contexte de guerre commerciale, étant donné que Hong Kong est une place majeure pour le commerce de la Chine. Et dans une situation où vous avez, d'un point de vue global, une croissance du commerce international qui est plus faible, une place comme Hong Kong est bien sûr affectée. Donc c'est déjà dans une situation d'une économie locale qui est fragile. Et en l'occurrence, effectivement, au niveau du monde des investissements, il y a beaucoup d'entreprises chinoises qui sont cotées en bourse à Hong Kong, qui ont annulé toutes ces dernières semaines, par exemple, elles ne veulent plus venir ici à Hong Kong pour présenter leurs résultats parce que pour des raisons de sécurité. Vous avez des introductions en bourse qui ont été, pas annulées, mais en tout cas repoussées. Et c'est clair que c'est pas quelque chose de favorable pour l'image de Hong Kong comme centre international financier. Mais il faut souligner quand même qu'encore une fois, Hong Kong a des avantages et des atouts. Et c'est pour ces raisons, justement, que c'est devenu une place internationale aussi importante. Et notamment en ce qui concerne la convertibilité de la hongkongais, etc. Mais aussi nous sommes dans un contexte où, de toute façon, la Chine a des ambitions d'ouvrir son marché des capitaux, de promouvoir la bourse de Shanghai, la bourse de Shenzhen et, en général, l'ouverture du marché, que ce soit marché action, marché obligation. Et de cette façon, c'est clair que Hong Kong devient et reste toujours très, très important, mais peut-être moins crucial dans ce projet sur de nombreuses années d'ouverture.
Est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui, face à cette situation, ces violences qui sporadiquement peuvent se manifester, disent non, ça devient trop compliqué, on s'en va?
Non. Non, pour l'instant, il n'y a pas de phénomène de fuite ou de départ. Par contre, je peux envisager pour une entreprise qui se pose la question, je veux m'installer en Asie, ou je veux travailler avec la Chine, est-ce que je choisis Hong Kong ou je choisis directement Shenzhen ou Shanghai ou Pékin? Avant, la question se posait sûrement d'une façon différente. Maintenant, peut-être que si on veut travailler directement avec la Chine, pourquoi pas le faire directement en s'installant directement en Chine. Et si on veut travailler sur l'Asie, la place de Singapour, qui a toujours été une place, toujours une concurrence entre Hong Kong et Singapour, devient sûrement une destination qui est peut-être plus facile à accepter comme, pas accepter, mais si on doit se poser la question entre Hong Kong et Singapour, on choisira peut-être plus facilement Singapour.
Et oui, les tigres asiatiques n'hésiteraient pas à se manger entre eux. Frédéric, Karine Hirn parlait de la dualité des médias. Comment est-ce que l'information est traitée en Chine ?
En fait, la presse chinoise officielle, au début du conflit, a totalement censuré les événements qui se déroulaient à Hong Kong. C'est-à-dire que les manifestations monstres qu'il y a eu au mois de juin, et notamment celle de mi-juin où il y a eu 2 millions de Hongkongais dans les rues, a été totalement occultée par la presse chinoise du continent. Et en fait, les médias chinois ont commencé véritablement à parler de la situation à Hong Kong quand il y a eu des phénomènes de violence. Quand, par exemple, le drapeau chinois a été jeté à l'eau dans la baie de Hong Kong. En fait, les médias chinois se sont emparés des violences qui ont émaillé certaines manifestations pour mieux dénoncer les manifestations de Hong Kong, pour traiter les manifestants de quasi-terroristes et éventuellement pour mieux justifier une action très ferme du gouvernement de Pékin, du gouvernement local et des autorités chinoises pour réprimer ce mouvement.
Il y a un cas intéressant, c'est celui du groupe d'habillement Zara. Un journal de Hong Kong s'est interrogé sur la fermeture de 4 magasins de la marque lors d'une manifestation en se demandant si celle-ci devait être perçue comme une marque de soutien à un mot d'ordre de grève lancé par des étudiants. Zara a fait l'objet d'une campagne très négative sur Internet, obligeant le groupe espagnol à s'excuser et à s'expliquer sur le réseau social Weibo. On voit, Frédéric, à quel point le sujet est sensible.
Oui, en fait, tout ça s'est teinté d'un fort sentiment nationaliste. Et voilà, le message de la presse officielle chinoise, c'est de dire que Hong Kong fait partie de la Chine, que l'unité de la Chine est inaliénable et que quiconque s'attaquera à cette unité sera puni.
Alors, vu de France, j'ai un peu le sentiment que la Chine n'arrive pas à trouver une solution et que la situation est en train de lui échapper.
C'est vrai que les manifestations qui durent depuis plus de 3 mois à Hong Kong sont à la fois un immense défi pour Xi Jinping. C'est vraiment le plus grand défi auquel il doit faire face depuis son arrivée au pouvoir en 2012. C'est un immense casse-tête pour Pékin qui n'a pas vraiment de solution évidente. On a l'impression que finalement Pékin joue un peu du bâton et de la carotte. La carotte, c'est la suppression quand même du projet de loi d'extradition pour essayer de faire rentrer les manifestants les plus modérés chez eux. Et le bâton, c'est quand même une répression policière extrêmement musclée, des pressions fortes sur les habitants, mais aussi sur les entreprises pour qu'elles se tiennent à l'écart des protestations, pour qu'elles interdisent à leurs employés de participer aux marches. Voilà, on a l'impression que Pékin a prévenu qu'il ne resterait pas les bras croisés si la situation dégénère. Et d'ailleurs, la présence de militaires et des blindés de l'armée du peuple dans la ville frontalière de Shenzhen vise clairement à intimider les manifestants.
Ce sont les rares images filmées aux abords du stade de Shenzhen, où des dizaines de véhicules blindés chinois sont stationnés. La ville est située à la frontière avec Hong Kong.
Ça, c'est une image qui a beaucoup marqué en Europe, ces troupes chinoises qu'évoquait Euronews. Pékin peut-il vraiment intervenir militairement?
C'est vraiment l'option ultime, l'option la plus risquée pour Pékin. Depuis le retour de Hong Kong à la Chine, donc en 97, l'armée chinoise est stationnée dans le territoire, mais elle y est très discrète. Mais elle est uniquement là si le gouvernement hongkongais lui demande d'agir. Enfin, déployer l'armée serait catastrophique en termes d'image pour la Chine et ça porterait un coup très rude au statut de centre financier mondial de Hong Kong. D'ailleurs, Carrie Lam, dans un enregistrement audio qui a été dévoilé par Reuters, était assez catégorique en aparté en disant que Pékin n'avait absolument aucune intention d'envoyer l'armée.
各位香港市民, 逃犯条例修订所引起的示威和冲突.
Jeudi dernier, Carrie Lam, chef de l'exécutif de Hong Kong, a appelé au dialogue. Elle souhaite mettre un terme au chaos au plus vite et rétablir l'ordre social. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, Frédéric, en passer d'abord par un départ de Carrie Lam?
C'est une des 5 demandes des manifestants. C'est sûr que son départ permettrait certainement de faire tomber un peu la pression. Après, Pékin n'aime jamais décider dans l'urgence et sous la pression. Et d'ailleurs, pour l'instant, le gouvernement central joue la stabilité en affichant son soutien à la fois à la police de Hong Kong et à la chef de l'exécutif Carrie Lam. Dans un enregistrement audio qui a fuité la semaine dernière, Carrie Lam affirme qu'elle aurait démissionné si elle avait le choix. C'est une déclaration qui semble indiquer que Pékin s'y refuse pour l'instant.
Pourquoi est-ce que Hong Kong est-il aussi important pour la Chine?
Oui, en fait, Hong Kong conserve un rôle crucial en tant que centre financier, de porte d'entrée pour les investissements étrangers et aussi de refuge pour les fortunes des hauts dirigeants communistes. Hong Kong a un rôle multiple dans le business de la Chine. C'est une place, par exemple, privilégiée pour les introductions en bourse de boîtes chinoises, dont beaucoup, en fait, font des IPO à Hong Kong et lèvent des fonds à Hong Kong. Il y a aussi beaucoup de sociétés chinoises qui créent des filiales à Hong Kong pour finalement se donner plus de place à leur pouvoir, à leurs finances et pour échapper au contrôle des capitaux qui ont lieu en Chine continentale. Hong Kong, faut quand même le rappeler, ça reste un port de commerce important pour les marchandises qui sont importées ou exportées vers la Chine. Et en termes d'investissement étranger, en fait, 65% des investissements étrangers qui vont vers la Chine continentale passent par Hong Kong. Et inversement, 70% des investissements chinois qui sortent vers l'international passe par Hong Kong. Donc Pékin a encore un intérêt très fort à garder le modèle économique de Hong Kong.
Merci Frédéric. Dimanche, de nombreux habitants ont manifesté devant le consulat américain.
Après 3 mois de manifestations, ils appellent Donald Trump à faire pression sur Pékin pour aider Hong Kong à protéger ses libertés.
Fin août, le président Trump avait demandé à la Chine d'agir avec humanité, alors que vendredi, la chancelière allemande Angela Merkel, en visite à Pékin, a appelé au dialogue, rappelant que dans la situation actuelle, tout doit être mis en œuvre pour éviter la violence et les solutions ne peuvent être trouvées que sur le plan politique, c'est-à-dire par le dialogue. Lundi matin encore, Reuters rapportait que des centaines de lycéens en uniforme scolaire, masques sur le visage, ont formé des chaînes humaines dans plusieurs quartiers de Hong Kong afin d'afficher leur soutien au mouvement de contestation anti-gouvernementale. Merci Frédéric Schaeffer, correspondant des Échos à Pékin, et merci Karine Hirn, cofondatrice d'East Capital. La story s'est finie pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr et bien sûr tous les jours dans les pages du quotidien Les Échos pour suivre nos analyses et l'actualité économique et politique. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner.